cours d'économie.
La relance des chemins de fer à l'ordre du jour, le Premier ministre Matata Ponyo a inauguré hier les 4 locomotives neuves de la SNCC. Ces locomotives vont opérer sur le tronçon Kisangani-Ubundu. Nous sommes dans la province de la Tchopo. Pendant ce temps, dans le Nord Kivu, nous parlons de la dégradation de plusieurs axes routiers dans la province. À la base, la suspension momentanée des contrats de travaux de cantonnage manuel par l'Office des routes. Les commissions ECOFIN et PAJ de l'Assemblée nationale sont en huis clos depuis ce mercredi au Palais du Peuple ici à Kinshasa. Elles veulent évaluer l'exécution des recommandations relatives à plus de 140 millions de dollars américains du FPI détenus par des bénéficiaires insolvables. Voilà pour le titre, messieurs, dames. Bonsoir et bienvenue à Écho d'économie. Le Premier ministre Matata Ponyo a inauguré hier, mardi, à Kisangani, 4 locomotives neuves de la SNCC. Cette inauguration relance en même temps le trafic ferroviaire sur le tronçon Kisangani-Ubundu, long de 125 km. Ces locomotives ont la capacité de tracter une charge maximale de plus d'un million de tonnes de marchandises par an. C'est ce que nous dit Dorcas Kankou dans ce reportage.
Pour le ministre congolais de transport, cette acquisition a été complètement financée et soldée par le gouvernement. La dernière dotation en locomotive de cette taxe remonte à 1974. Le ministre congolais des Transports, Justin Kalumba, revient sur les capacités de ces locomotives.
Chaque locomotive détient donc la capacité théorique de tracter 900 tonnes de marchandises par jour, soit 3600 tonnes par jour pour les 4 locomotives et une charge maximale théorique de 1 314 000 tonnes de marchandises par an. Avec une capacité aussi robuste de traction apportée par ces 4 locomotives sur cet axe Kisangani-Ubundu, l'opinion comprendra facilement que le gouvernement ambitionne de désenclaver une bonne fois pour toutes cette partie de la République.
Cette région est riche en produits agricoles, forestiers et minéraux. Son désenclavement a pour objectif la génération de la croissance économique et la création de richesses, a martelé le ministre de Transport. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Plusieurs axes routiers à travers la province du Nord Kivu sont actuellement dans un état de dégradation très avancé. Cette situation est consécutive à la suspension momentanée des contrats de travaux de cantonnage manuel par l'Office des routes. L'Office des routes évoque des difficultés de rémunération des cantonniers à qui le gouvernement doit par ailleurs beaucoup d'argent. L'opinion redoute des conséquences fâcheuses de cette situation sur l'économie des territoires et de toute la province elle-même. Denis Lukeso nous en dit plus.
En territoire de Rutshuru, l'administrateur parle des accès Bourai, Bunagana, Kiwanja, Ishasha et Kiwanja Grand Nord pour ne citer que ceci. Selon Justin Mukanya, ces routes sont d'une importance économique capitale pour le territoire et pour Goma, chef-lieu de la province. Pour l'administrateur Mukanya, si rien n'est fait dans l'immédiat, c'est l'économie du territoire qui sera affectée et par ricochet, l'économie de la province aussi sera touchée. Ici, il parle des conséquences économiques qui peuvent découler de cette dégradation et plaide pour l'intervention de l'autorité provinciale.
Je peux vous dire, ce jour, tous les axes routiers sont sensiblement dégradés. Et donc, nous sommes en difficulté, les opérateurs économiques ne savent pas où mettre la tête. Alors, ici, nous en appelons très franchement et sincèrement à la bonne compréhension de l'autorité provinciale pour qu'elle nous vienne en aide. Puisque si rien n'est fait dans les jours qui viennent, franchement, il n'y aura plus de route en tout cas de route de même ailleurs. Et les produits agricoles qui sont en ce moment en train d'être évacués vers Goma ne pourront pas l'être et ça va être la catastrophe, madame. L'activité économique sera paralysée, ça c'est la première des choses. Même les véhicules qui viennent de l'Ouganda en transitant par le poste frontalier de Bunagana, pratiquement il n'y aura pas de circulation et l'économie du territoire sera paralysée et même l'économie de la ville de Goma sera entamée, ça c'est la première conséquence. Les autorités économiques menacent aussi d'arrêter tout mouvement. Ça va être difficile. Nous ne pouvons pas très sincèrement envisager ce que va devenir le départ du retour d'ici une des semaines si une solution exemple n'est pas trouvée.
Le territoire de Massissi n'est pas épargné non plus avec des fortes pluies qui s'abattent dans la zone ces derniers jours. Les transporteurs ainsi que les producteurs éprouvent d'énormes difficultés en cette période de récolte pour acheminer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. C'est comme le dit ici Gervais Kanane, président de la coordination des transporteurs de Massissi.
Moi, ces eaux pluvieuses, barabara zinakuwa complètement foutu. Manake zimeharibika kabisa. Benye wanatoka, wanatuambia amepata problem serie kutoka Masisi kufika hapa Goma, na mashini imekuwa mingi mingi sana. C'est vrai wamejikaza, wanafika hapa difficilement, mais semaine prochaine déjà itashindikana, donc accès itakuwa impossible juu hakuna tena kazi ya cantonnage.
L'office des routes, qui a la charge d'entretien des routes, déclare avoir reçu l'ordre de Kinshasa de suspendre momentanément les contrats des travaux des cantonnages manuels à travers toute la République. Les directeurs provinciaux expliquaient que cette suspension est liée au paiement de cantonniers. Tout en jetant la balle à son bailleur traditionnel, les Fonaires, l'office des routes déclare chercher d'abord à apurer des dettes de 7 mois pour les routes provinciales et de 5 mois pour les nationales. Suivez ces explications du directeur provincial de l'Office des routes, Jean-Pierre Kofi Napangi.
Si on parvenait à liquider ces dettes, certainement les cantonniers vont reprendre leur travail. Nous recevons de l'argent du FONER et nous payons les cantonniers. Tant qu'on ne nous a pas libéré l'argent, nous on ne peut pas payer. C'est pas nous qui avons accumulé ça. L'argent vient de quelque part et on nous donne pour payer. Si la route s'abîme, c'est pas de notre faute. C'est la faute des héritiers qui nous a demandé de suspendre les travaux.
Le directeur provincial du FONER est resté injoignable ce mercredi. Pendant ce temps, les usagers des routes ainsi que les attributaires doivent prendre leur mal en patience. Goma, Denis Lukeso pour Écho d'économie.
Un autre dossier à suivre dans ce magazine, c'est celui du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI. Les commissions PAJ et ECOFIN de l'Assemblée nationale se réunissent depuis ce mercredi à huis clos pour évaluer l'exécution des recommandations de l'enquête parlementaire. L'enquête avait fait des recommandations au Parlement et au gouvernement. Cependant, ni le gouvernement ni le Parlement ne s'est exécuté. Ces deux commissions veulent en avoir le cœur net. Et c'est l'occasion pour Écho d'économie de vous rappeler ce soir le dossier des 140 millions de dollars américains débloqués entre 2008 et 2014 par le FPI, mais jamais remboursés par les bénéficiaires. Nadine Foulassimba revient ici sur les principales anomalies autrefois relevées par l'enquête parlementaire.
Parmi les griefs retenus contre le staff dirigeant du FPI, l'enquête parlementaire avait révélé que 70% de projets financés par le FPI entre 2008 et 2014 n'ont pas été réalisés et que pour la plupart, c'était des projets fictifs. Selon les parlementaires, il s'agissait tout simplement d'un détournement de fonds du FPI par des promoteurs de projets. Ces rapports avaient également noté une certaine complaisance du comité des gestion du FPI dans le choix des promoteurs de projets. Les rapports indiquaient que l'ADG du FPI, Constantin Mbengele, avait privilégié dans l'octroi des crédits les politiques au détriment des véritables entrepreneurs. À ces griefs s'ajoutait la prise illégale d'intérêt due à l'achat d'un bien immeuble abritant les services des 7 établissements publics. Autre irrégularité, les subventions accordées pour les recherches scientifiques appliquées aux innovations qui étaient exécutées en des montants exorbitants alors que les bénéficiaires en touchaient moins. Selon toujours ces documents, 3 membres du gouvernement, un député et un cadre de la Commission électorale nationale indépendante détiennent à eux seuls près de 3 millions de dollars. Ces personnalités n'ont encore rien remboursé. Au nombre des recommandations formulées, la commission parlementaire avait plaidé pour la dépolitisation et la rationalisation des conditions d'octroi des crédits et des subventions. Elle avait également recommandé la poursuite en justice des créanciers insolvables et les bénéficiaires des subventions non justifiées. Pour les parlementaires enquêteurs, il faut recourir à un recouvrement forcé des impayés du portefeuille. C'est ainsi qu'au retour de leurs vacances parlementaires et à l'approche de la reddition des comptes attendue dans le prochain jour, les députés ont voulu remettre ce dossier sur la table des discussions. Les commissions ECOFIN et PAJ de l'Assemblée nationale se sont réunies aujourd'hui à huis clos pour mettre la lumière sur la suite de ces dossiers. Nous y reviendrons.
Et je vous garde un instant, Nadine, c'est pour nous parler en plus large du FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie en RDC. C'est dans le Zoom économique de ce soir. Bonsoir, Nadine.
Bonsoir, Daniel. Le Fonds de promotion de l'industrie a été créé en 1989 sur les cendres du Fonds de relance économique et du Fonds de convention de développement à la suite des défaillances constatées au niveau de la gestion de ces deux institutions. Le FPI est doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière. Il a pour mission le soutien aux industries existantes, la promotion des industries nouvelles, la promotion des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'intégration industrielle, la promotion des exportations de produits manufacturés, fracturé. Le FPI est actuellement un établissement public à caractère économique et financier. Il a été créé par les soucis du gouvernement congolais de l'époque de disposer d'une formule de financement présentant la souplesse requise pour couvrir les besoins des financements qui ne peuvent être facilement couverts selon la formule de financement classique des banques. Quelle est la raison d'être du FPI et à ce titre, cette institution complète et améliore les systèmes de financement actuels en place au Congo. Il a pour principale mission de promouvoir l'essor de l'industrie congolaise en faisant recours à sa principale ressource qu'est la taxe de promotion de l'industrie perçue sur toute importation. Alors qu'il est, le FPI a déjà financé plus de 750 projets à travers le pays. Et ce mercredi, les commissions ECOFIN et PAJ de l'Assemblée nationale se sont réunies à huis clos pour mettre la lumière sur la suite du dossier exécution des recommandations de l'enquête parlementaire, une enquête qui avait fait des recommandations au Parlement et au gouvernement au sujet de plus de 140 millions de dollars américains débloqués entre 2008 et 2014, mais qui n'ont jamais été remboursés par les bénéficiaires.
Merci Nadine et merci à vous tous, chers auditeurs. C'est la fin de Écho d'économie. Merci de nous avoir suivis.